C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hong.
Bonsoir. Investiture ce mercredi du gouvernement Matata Ponyo par l'Assemblée nationale. Son programme comporte quatre axes principaux. Il s'agit notamment de la nécessité de construire un État efficace et de l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Comment analyser le programme du gouvernement Matata Ponyo? Pour en parler, nous recevons comme invité honorable Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition, secrétaire général adjoint du MLC, également président du groupe parlementaire MLC et allié, honorable Boussa. Bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Christophe Lutundula, député national de la majorité présidentielle et président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va intervenir. Honorable Lutundula, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci pour vos réactions qui sont déjà très nombreuses. Thierry Zain, parmi les toutes premières actions amenées par ce gouvernement, c'est d'évaluer les réalisations du premier quinquennat, féliciter ce qui a été bien fait, sanctionner sévèrement ceux qui ont empêché le décollage de ce pays. Par exemple, nous avons vu des ministres lancer des travaux de construction ou de réfection, mais plus de 3 ans après, même pas le dixième de ce que nous attendions ne s'est réalisé. Emmanuel de Matadioba Congo, c'est un bon programme, mais je me demande, que signifie la révolution de la modernité, quelle est sa différence des 5 chantiers? Aussi, pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas prévu le recensement des populations? Car pour améliorer le filet social des Congolais, il faut connaître leur nombre et leur catégorie. Il a prévu la révision constitutionnelle. Monsieur le Premier ministre, ne touchez pas, s'il vous plaît, la Constitution dans ses articles 218 à 220, fruit défendu. Bon type de programme à tous et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radio4.net.
Bienvenue à tous dans votre émission. Investiture du gouvernement à Matata par les élus du peuple. Cela a eu lieu au cours de la session plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une investiture qui est intervenue après l'approbation du programme d'action du gouvernement présenté aux élus du peuple par le Premier ministre. Et cela après que Matata Ponyo ait fourni des réponses aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la plénière de lundi dernier. Une démarche qui s'inscrit dans le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Reportage Jacques Moïma.
Ils étaient au total 386 députés nationaux qui ont participé au vote du programme du gouvernement Matata. À l'issue du vote, le président Obama Minakour a livré les résultats.
324 députés ont voté pour. En conséquence, l'Assemblée plénière approuve le programme du gouvernement.
Le programme d'action est ainsi approuvé. Le gouvernement Matata est par voie de conséquences investi du pouvoir. La signature des documents d'investiture est aussitôt intervenue. Notons que bien avant cela, le Premier ministre a dû fournir des explications aux élus du peuple quant à certaines préoccupations concernant son programme d'action. Un programme qui a été jugé recevable par certains élus qui ont voté pour. Parmi eux, le libre béni, Georges Kirou.
Je crois qu'il faut doter le pays d'un gouvernement le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'il y a plein de défis à relever. Le premier défi, évidemment, c'est celui qui concerne la sécurité à l'est du pays. Il fallait absolument qu'une bonne fois pour toutes, il y ait un gouvernement pour s'occuper de tous ces problèmes.
Mais ce programme d'action n'a pas rencontré l'assentiment de tous, à l'instar de l'élu de Kungu, François Bemba.
Moi, j'avais besoin de quelque chose de concret. J'ai pas eu ce qui était concret. On s'est pas plus de rester dans le vague, et puis comme ça, 5 ans passent, et puis on voit rien, quoi.
Notons que ce vote a été boycotté par certains députés de l'opposition, notamment ceux de l'IDPS, PAC.
Honorable Christophe Lutundula, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD. À tous, d'abord, juste un mot sur le déroulement de la cérémonie d'investiture. Avant que l'on aborde le programme, le fond de la question qui est le programme du gouvernement, honorable Lutundula.
Je crois que toutes les règles et les procédures en la matière ont été respectées. même s'il y a eu beaucoup de bruit avec l'afflux massif des militants des partis. Je souhaite vraiment, en tout cas, que dans les jours à venir, à l'Assemblée, nous puissions trouver des solutions appropriées. Ça date depuis qu'on est là. Je ne sais pas pourquoi dans notre pays, en même temps qu'on crache sur la deuxième république, le mobotisme, on la reprend la culture et les pratiques. Je m'explique pas la présence de militants, de partis, jusqu'au même dans les rangs, dans les bas où sont assis les députés. Je crois que nous devons changer ça. Mais les procédures ont été respectées.
Et malheureusement, ce sont les militants des partis de la majorité présidentielle.
Bon, parce que le gouvernement émane de la majorité, et cela ne signifie pas que c'est bien parce que vient de la majorité.
Et ça présente, comme vous l'avez dit, une image assez quand même bizarre de l'Assemblée, des bruits partis par là. Le président qui rappelle à l'ordre, il n'est pas suivi, c'est assez compliqué.
Non, et bizarre, c'est peut-être trop fort. Hein? Bon, moi je dis que les procédures ont été respectées. Et objectivement, chacun peut avoir sa vision. Hein? Je ne le dis pas seulement aujourd'hui, même quand moi-même j'étais membre du bureau de l'Assemblée. Et je crois qu'on doit laisser les parlementaires discuter, statuer, examiner les questions qui relèvent des prérogatives. On doit laisser nous faire le travail dans la sérénité. Et vraiment, je crois que il faudra que nous-mêmes, les députés, un jour, avec le bureau et sous l'autorité du bureau, pouvons discuter, parce que vous savez, quand on est au bureau là-bas, ça n'est pas facile. Il y a des considérations, évidemment, d'ordre administratif, la discipline, mais aussi des considérations d'ordre politique. Et l'équilibre n'est pas toujours facile. Il faudra que tous les députés s'assument et que nous puissions prendre, par exemple, une résolution ferme que désormais, parce qu'il y a présentation du budget, interpellation et tout, tout le monde reste au balcon. Et dès que le balcon est plein, bon, les gens restent à la maison. D'ailleurs, vous savez, on suit mieux les débats à partir de ce soir que dans la salle. Hein.
Merci, honorable Lutondola. Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes député national de l'opposition, secrétaire général adjoint du MRC, président du groupe parlementaire MRC et allié. Votre commentaire sur le déroulement de la cérémonie d'investiture.
Bon, en tant que député, nous avions deux obligations majeures. La première, c'est de respecter les principes de la Constitution de la République en rapport avec l'investiture du gouvernement de la République. Deuxièmement, nous avions comme cadre légal, par rapport à l'organisation du travail, notre règlement intérieur qui dispose de manière claire la procédure qui permet de pouvoir, débattre et approuver ou pas les programmes du gouvernement. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas assez de commentaires. Ce que je voudrais relever, c'est qu'il faut absolument que nous nous en tenions aux règles que nous avons nous-mêmes votées. On ne peut pas comprendre qu'on ait pris des règles, arrive au moment de les appliquer, il y a quelques considérations subjectives. Il est clair que dans notre règlement intérieur, comme mon prédécesseur vient de le dire, il est permis que le citoyen puisse assister au débat au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a une discipline à observer. Par moment, ça nous pose quelques problèmes en termes de quiétude, mais aussi probablement en termes de sécurité. Et donc, je voudrais que prochainement, pour ce genre de choses, que le bureau de l'Assemblée nationale puisse savoir respecter les règles. Et prêché par la rigueur, ça veut dire qu'à partir du moment où le public qui vient assister au débat parlementaire viole les dispositions du règlement intérieur, il n'y a pas deux mesures à prendre. Il faut décider de les mettre dehors. Et prochainement, en ce moment, ils vont respecter.
Alors, très brièvement, honorable Jean-Lucien Boussa, une partie des députés UDPS FAC est sortie. C'est encore l'opposition qui joue un peu à la chaise vide encore.
Non, mais il faut poser la question à l'UDPS. En tout cas, nous avons considéré qu'à partir du moment où nous avons choisi d'être députés, à partir du moment où le peuple nous a envoyé pour débattre sur les questions qui l'intéressent, peut participer au débat. Vous avez bien vu que nous avons participé au débat. En tout cas, le groupe MLC Allié a été conséquent avec lui-même. Après avoir fait la démonstration que ces programmes n'étaient pas en adéquation avec les aspirations populaires, il fallait que nous restions dans la salle pour assumer notre décision. Et nous avons voté non, c'est une façon d'assumer. Je ne vais pas répondre à la place des collègues qui ne sont pas là, donc je préfère me limiter au cadre qui m'intéresse, c'est-à-dire l'option MLC et Allié.
Merci, honorable Jean-Lucien Boussa. Règlement à présent au programme du gouvernement Matata, Pognon. Quatre axes principaux constituent les lignes dorsales du programme du gouvernement Matata présenté lundi dernier à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la nécessité de construire un État efficace, l'impératif de développer des infrastructures de base, la redynamisation des principaux secteurs de production, le renforcement du capital humain et l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Un programme qui, pour le Premier ministre, est basé sur un certain nombre de questionnements et dont les solutions doivent être trouvées lors de cette législature. Jacques-Yves Molima, reportage.
S'inscrivant dans le quinquennat du chef de l'État qui est en sécurité sociale, le Premier ministre Matata Pognon place son programme dans la même vision. Qu'est-ce qui sera fait exactement? Matata Pognon place quelques réalisations.
La création des emplois décents, la réinsertion socio-économique des jeunes défavorisés, l'amélioration de la desserte à l'eau potable et l'assainissement, l'accès à l'éducation, l'habitat, la culture ainsi que le sport.
Des propositions qui doivent se concrétiser, disent certains députés. Emery Okoudi.
Le Premier ministre, jusque-là, bénéficie de la présomption de réussite. Mais nous l'attendons à l'heure.
Pendant, le Premier ministre sera investi avec un caillou dans ses souliers. La situation de l'Est, France, Justin, vite s'accuira. Pour lui, il faut une solution définitive pour l'Est du pays.
Matata n'est que Premier ministre tant que le pouvoir du président Joseph Kabila ne va pas crever l'accès pour résoudre la question de l'Est. Même son passage n'apportera aucun fruit.
Merci, Jacques-Yves Molima. Honorable Christophe Moutoundou, là, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit. Je vous en cite deux. Willy Litala de Kampala, en Uganda. Ne serons-nous pas encore déçus? Quelles sont les machines que le présent gouvernement a investi mettra en place pour éviter ce que les gouvernements passés ont essayé de faire? Par exemple, désenclavement de certaines régions qui, pourtant, se qualifient tant bien que mal dans l'approvisionnement des produits de première nécessité au niveau national, la sécurisation de l'Est et la formation d'une armée, une armée qui ne sera que pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Il y a espoir, pays, Tshubaka de Bukavu, Sud-Kivu. Ces axes sont très bien conçus comme ceux du quinquennat précédent, mais qui n'ont rien changé positivement dans le développement durable de notre patrie, la RDC. Notre pays a tout les nécessaires pour son émergence, mais il souffre du manque des dirigeants consciencieux, des bons discours mais incompatibles avec les réalisations concrètes. Ouvrons grandement nos yeux pour voir ce que ce gouvernement de salut va nous réaliser de façon concrète. Honorable Lutundula, ce programme du Premier ministre Matata Pognon, n'est-ce pas du déjà entendu?
Bon, je crois que vous m'avez suivi lorsque je parlais au nom de l'Alliance des Républicains Démocrates, ARD, enfin, bien sûr, j'avais dit notamment que bon, si vous partez d'un contre-père qui est à la fin des années 50, nous avions le programme du Sénat, le Bech, et qui n'a pas pu être conduit à sa fin parce qu'il y a une indépendance, et j'ai dit qu'il y a eu des plans, des programmes, nombreux, peut-être la centaine. Et j'ai souligné, au nom de mon groupe, effectivement, nous avions quelques présenteurs et qu'il fallait me faire sauter la volonté politique, le fonctionnement global du système, je ne dis pas du régime politique, c'est-à-dire les interactions entre les acteurs institutionnels, non institutionnels, entre les forces politiques, les relations formelles, informelles. Il y a tout un ensemble de relations qui interfèrent dans la gestion de l'État. Et nous avons aussi relevé qu'il fallait effectivement qu'au fur et à mesure que la législature avance, que ce programme soit enrichi et amélioré. Nous verrons aussi quand le budget sera déposé. Donc, il y a, et ça se comprend, hein, un climat général de scepticisme chez les Congolais qui ont vécu des expériences pas tout à fait heureuses lorsque on se réfère au passé. Bon, maintenant, ça a commencé avec Joseph Kabila. Il y a des pas qui ont été franchis. Et je crois que ça signifie que ce n'est pas encore suffisant pour que le Congolais soit convaincu qu'une fois dit, ça se fait comme c'est dit. Bon. là, il n'y a rien qui est de neuf pour moi. Je ne reprends pas ce que je dis, la personne qui a parlé, c'est Romain qui m'a suivi. Mais cela ne peut pas nous pousser à un pessimisme. Vous savez, on a un gouvernement, on a un État, on a une politique économique, ce n'est pas mon ami et collègue Jean-Michel Moussa qui va me démentir. On a tout cela, parce qu'il y a des problèmes à résoudre. D'ailleurs, l'économie elle-même, c'est d'un mot la gestion de la rareté de biens face à la multitude de besoins d'une société ou des individus. C'est pour ça qu'il y a une chance économique et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut travailler. Le gouvernement vient de s'installer. On ne peut pas dire a priori qu'on donne un chèque en blanc. Louer s'en faut, autrement on n'aurait pas eu de débat. On ne peut pas dire non plus a priori que c'est l'échec et rien ne va changer parce qu'on a quand même fait un long chemin depuis un certain temps. Il faut consolider les acquis, avoir de l'ambition au niveau des animateurs, bien sûr, au niveau de la population aussi, de toutes les forces, majorité comme opposition, parce que l'opposition par définition c'est une force de proposition alternative. Et voilà comment moi je perçois la chose. Il faut démarrer quelque part, il ne faut pas se décourager, on a déjà fait des pas. Qu'il faut consolider.
Deux autres auditeurs honorables, Lutundula, Nestor de Kisangani en province orientale. Le programme du gouvernement, c'est du désentendu. Ce que veut le peuple, c'est le social qui passe par la réduction du train de vie des gouvernements. Emana de Kinshasa, je pense que le programme de ce gouvernement est ambitieux, sauf que malheureusement, au Congo, on nous a habitués à de tels programmes, alors que dans les réalisations, on voit autre chose. Honorable Lutundula, vous-même, vous avez dit qu'il faut être ambitieux. Finalement, le programme du Premier ministre Massaka Ponyo n'est-il pas trop ambitieux?
Bon, écoutez, d'abord, quand on dit déjà, vous savez, les Romains ont bien traduit ça. Ils ont dit à la tête, ni qu'il nourrit sous le sol. Il n'y a rien de neuf sous la terre des hommes. Et c'est pour ça que les grands scientifiques, on les appelle plus des chercheurs que des savants. Chercheurs parce qu'il y a quelque chose qui existe qu'on trouve. Donc, on ne doit pas s'imaginer qu'il y aura un premier ministre qui va vous dire « Moi, je vais transformer le Congo en un paradis terrestre, en un clin d'œil. » Tout cela, non. C'est cela. Alors, vous me dites, vous voulez savoir quoi, là?
Le programme du gouvernement n'est-il pas finalement
ambitieux? Oui. Qui n'a jamais eu d'ambition dans cette terre des hommes n'a jamais vécu. Il faut de l'ambition. Sinon, c'est de l'immobilisme. Évidemment, il faut l'ambition mesurée. Et tous les débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale, avec toutes les réponses que le Premier ministre nous a données, traduisent justement l'idée qu'il faut redimensionner. Je crois que de la majorité, comme de l'opposition, les voix se sont fait entendre pour demander le redimensionnement, pour demander le chronogramme, pour demander l'évaluation chiffrée, et pour demander aussi que le Premier ministre démontre, par exemple, comment son gouvernement va réaliser des performances qu'il a annoncées, notamment la baisse du taux d'inflation, l'augmentation de la croissance qui passerait, je crois, de 7% là à 15%, quelque chose comme ça. Et oui, tu sais que le Premier ministre a annoncé, oui, de 7% à 15% d'ici à l'horizon 2016. Et on a demandé de démontrer cela. Merci. Parce que la conjoncture internationale, aujourd'hui, nous démontre, nous donne des signaux inquiétants. Même les pays de puissance économique et financière continuent à considérer que la crise n'est pas derrière nous, qu'elle est encore devant nous. Voilà, il y a un questionnement et je crois que il faut avoir de la patience et travailler.
Honorable Jean-Lucien Boussa, la même question. Ce programme n'est-il pas trop ambitieux? Ne fallait-il pas être réaliste?
Je pense que la République démocratique du Congo a besoin de se donner une ambition. Mais il faut se donner à la fois une ambition, mais aussi avoir les moyens de son ambition. Je crois que c'est cette adéquation qui nous permet de dire que le programme présenté par le Premier ministre est cohérent, il n'est pas cohérent. On ne peut pas dire qu'il est réaliste. Est-ce qu'il a le moyen de sa politique, etc., etc. Et donc là, je note que lorsqu'on parle d'un programme, on doit se mettre d'accord sur les éléments constitutifs d'un programme. Un programme, c'est la définition d'objectifs. Un programme, c'est aussi la définition, la détermination de la stratégie. Il faut fixer les actions à entreprendre. Il faut évaluer le coût du programme. Il faut se donner le moyen, je l'ai dit, donc, le financement du programme. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour financer ce programme? Mais un programme aussi, c'est un chronogramme. À quel moment on atteint tel objectif ou on réalise telle action. C'est aussi ça un programme. Un programme, c'est aussi se poser la question comment on va évaluer et à quel moment, périodiquement, on évalue ces programmes et par quel mécanisme. Je crois que ce sont là les questions qui devaient être rapprochées à ce que le Premier ministre nous a présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Or, quand on a lu ces programmes, on s'est rendu compte qu'il était certes ambitieux. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quatre faiblesses majeures. Lesquelles ? La première faiblesse, c'est qu'il est incohérent. Il est incohérent en ce sens que lorsque vous lisez la proposition faite par les gouvernements en termes de mobilisation des recettes, alors que vous évaluez de manière approximative le coût qui n'est pas déterminé par les gouvernements, c'est une faiblesse majeure. On se rend compte qu'il n'est pas possible de pouvoir mettre en équilibre le moyen que le gouvernement se fixe et l'ambition qu'il se donne. Deuxièmement, en interne bien sûr, deuxièmement, je dis, ce programme n'a pas été évalué, le gouvernement lui-même l'affirme, mais aujourd'hui le Premier ministre dit qu'il va l'évaluer d'ici là et il va nous communiquer à l'occasion de la présentation du budget. Non, il fallait l'évaluer au même moment qu'il nous le présentait. Pourquoi ? Il y a deux choses qui doivent se passer. Le budget, c'est un extrait du programme. Mais avec la réforme de la finances publiques, il faut un cadre des dépenses à moyen terme. Ça veut dire qu'il faut une planification à moyen terme, 3 ans. Si on a une proposition qui nous détermine des objectifs sur 5 ans, nous devons tirer de ces objectifs ce qu'on appelle le cadre budgétaire à moyen terme sur 3 ans, et de là, vous avez un budget sur un exercice. Nous avons un problème par rapport à cela. Un programme, c'est aussi des engagements lisibles, précis. Je donne un exemple. Lorsqu'il faut parler du pouvoir d'achat, par exemple, on se dit, voilà, tel bien coûte 100 dollars. Je prends l'exemple qui peut être connu par tout le monde, le carton des Saint-Charles, les Thompson qu'on appelle la Kinshasa. Il coûte 75 à 80 dollars, ça dépend du billet. Dans le programme, on doit nous dire, au bout de tel temps, dans un mois, nous allons prendre des décisions qui vont nous permettre, étant donné l'élément du coût d'achat, l'élément marge bénéficiaire, les éléments du coût douane, transport et ceci, nous allons ramener ces sacs, ces cartons de séchard de 75 dollars à 35 dollars par exemple. C'est des choses qui doivent être faites, et clairement dites, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce qu'on se laisse ?
Donc, j'ai parlé de l'absence d'engagement précis, j'ai parlé de l'incohérence, j'ai parlé de l'absence d'évaluation, j'ai aussi parlé de manque de chronogramme. Voilà pourquoi nous avons dit que le programme du Premier ministre, du gouvernement, aurait dû être cohérent et réprécisé avec un chronogramme clair pour permettre aux députés nationaux que nous sommes de pouvoir, lorsque nous avons le budget, de savoir si ce budget est le reflet du programme. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire que nous pourrions. En tout cas, lorsque le budget vient de dire non, 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 ça c'est la tranche annuelle du programme. Ça, ça nous pose un problème.
Donc voilà, à ce niveau.
Merci, honorable Jean-Lucien Boussa. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne. Professeur Kabamba. Voilà, décidément, quelques soucis avec la ligne du professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Je reviens à vous, honorable Christophe Lutundula. Vous avez suivi les faiblesses énumérées par l'honorable Jean-Lucien Boussa. Comment vous y répondez?
Bon, écoutez, j'ai suivi les faiblesses relevées par Jean-Lucien Boussa. J'ai même l'impression de dire clairement du mal là-dessus. Pour quelle raison? Le Premier ministre lui-même ne nous a pas dit que c'était un programme parfait, que tout était complet. Lui-même a dit que le chronogramme va suivre. Lui-même a dit qu'on devra évaluer. Et il y a eu des interventions de part et d'autre sur cette question-là. Jean-Lucien parle de l'expression chiffrée, mais Jean-Lucien sait, parce que c'est sa spécialisation, que le budget n'est pas que les frais du programme, c'est l'expression sur frais du programme. Et ce travail va se faire. Le premier ministre l'a dit, il n'y a aucune raison objective aujourd'hui de penser qu'il nous a vendu des illusions. Nous aurons bientôt le budget. Et sur ce point-là, je ne dis pas que ce qui a été fait, c'est vraiment la perfection. Mais il faut quand même contextualiser l'arrivée de Matata Ponyo à la tête du gouvernement et la formation de ce gouvernement. Nous avons fait déjà 5 mois depuis les élections, depuis la prestation de serment du chef de l'État, et il faut que ça démarre quelque part. Il est arrivé Matata il y a à peine 2 semaines. Jean-Lucien sait que tous les éléments auxquels il fait allusion demandent des études. Ça ne se commande pas par un appareil de commande à distance ou par une sorte d'automatisme. Il faut du travail. Et je suis très certain, parce qu'il a dit que dans les jours à venir, le premier ministre Matata, qui a bien enregistré les observations, y compris celles de Jean-Lucien Mboussa, y compris celles de mon groupe parlementaire, qui a relevé tous ces éléments de cohérence, certainement que les machines seront mises en mouvement pour fournir tous les éléments. Nous avons même demandé que le Premier ministre nous donne carrément un plan pluriannuel. Parce qu'en fait, vous avez au départ le plan, et de ce plan, on essaie de programme en termes de planification. Vous avez un plan, et puis, qui est généralement un plan qui s'étale sur 5 ans. Merci. Ça peut aller au-delà, et on essaie de programme avec des actions, et il a donné. Donc, le Premier ministre, on donnait des grandes orientations. Il ne peut pas en être autrement compte tenu du contexte dans lequel le gouvernement a été formé. Merci. Maintenant, ayons de la patience. Dans les jours à venir, ça va être fait. Et nous reviendrons sur le débat.
Merci, honorable Lutundo. Honorable Boussa, je vous donne la parole tout à l'heure. La réalisation, monsieur le professeur Félicien Kabamba est en ligne. Professeur, bonsoir, vous nous suivez?
Bonsoir.
Merci beaucoup. Professeur, on se souvient que dans une émission, dans une récente émission, vous posiez la question sur le concept révolution de la modernité. Vous avez suivi le programme du Premier ministre Matata Ponyo. Avez-vous trouvé finalement votre réponse? Il y a beaucoup d'auditeurs également qui nous ont posé la même question.
Oui, disons, le programme en soi, je l'ai trouvé ambitieux. Il me semble équilibré parce qu'il tient compte de beaucoup de paramètres. Il y a là dedans des paramètres d'ordre économique qui prédominent, bien entendu, mais vous trouvez également des paramètres d'ordre politique. Donc, je trouve que c'est un programme qui, à mon avis, est sociolibéral. Il met l'accent sur la croissance, et il met également l'accent sur la justice sociale. Vous savez, quand on parle de programme, tout le problème, c'est que de ce programme, on attend des résultats concrets. Et c'est probablement là que notre programme ambitieux est très attendu et sera probablement critiqué. Vous vous rappellerez que le programme d'Izenga était également très ambitieux. J'ai essayé de le lire il y a 2 heures et j'ai trouvé qu'il comportait énormément d'éléments. Et si on essaie de l'évaluer aujourd'hui, je me dis que s'il a été réalisé à 20%, ce serait beaucoup. Mais c'est un programme qui est resté carrément dans les tiroirs et on n'a pas tenu compte, il n'a pas été concrétisé. Et donc, notre inquiétude, chaque fois que l'on parle de programme, c'est que c'est finalement un document de référence, mais qui généralement est destiné à être présenté au Parlement avant d'être oublié dans les tiroirs. Et donc, notre ambition maintenant, nos attentes maintenant, c'est que ce programme se mette effectivement en œuvre, qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain qui les traduisent. C'est ça ce que nous attendons. Eh bien, la révolution de la modernité, je comprends que c'est devenu un concept fétiche. Je ne crois pas qu'il y ait eu un contenu qui ait été attaché à ce concept. Et j'ai pu comprendre, à travers l'un des axes du programme, qui est celui de la continuité des infrastructures de base, qu'en fait, à travers les infrastructures, il y aura, selon ce que je comprends, une modernisation dans le cadre type uniquement infrastructurel, mais qui parle de modernisation doit embrasser un certain nombre de secteurs, les secteurs sociaux, les secteurs éducatifs, les secteurs sportifs. Il y a donc un vaste chantier. Il faudrait que le Congolais moyen réalise qu'en fait les services sociaux de base, les services publics ont été modernisés, qu'il s'agisse des secteurs de l'eau, des secteurs de l'électricité, l'accès à l'éducation, à l'école primaire et secondaire. Et donc, du coup, nous ne voyons pas très bien comment la modernisation peut être définie si on tient compte, évidemment, de sa définition initiale. Mais j'ai pu comprendre que là, on lui a donné probablement un autre sens. Probablement que ceux qui nous écoutent pourront bien nous définir le concept de la révolution de la modernité. Alors, un autre aspect à dire ici, c'est que il faut, pour que ce programme se réalise, une valorisation de la fonction politique et militaire de l'État. Et cela doit se traduire par un renforcement de capacités techniques, matérielles, opérationnelles de l'administration publique, mais surtout par une réforme générale de l'État. Et là, nous attendons évidemment de plus amples explications du gouvernement sur la manière dont il entend réformer l'État, parce qu'en fait, là, il va initier un vaste chantier dont nous attendons les principaux axes. Vous savez également que, comme il met l'accent sur la croissance, eh bien, qui parle croissance, parle de l'accroissement durable de la production de l'économie, mais pour que cet accroissement, pour que cette croissance impacte la pauvreté du Congolais, il faudrait une batterie de mesures. Il faudrait certainement des actions concertées, des actions concrètes sur le terrain, et il faudrait en particulier que cette croissance engendre des richesses supplémentaires, que ces richesses soient équitablement reparties, et pour qu'elles soient équitablement reparties, le rôle de l'État ici doit être redéfini. Merci. Il faut que l'on sache véritablement si l'État joue son rôle de redistributeur de richesses. Parce qu'en fait, vous savez que toute la littérature sur l'État congolais reconnaît qu'en fait, en RDC, l'accès au pouvoir de l'État est également l'accès aux ressources matérielles et morales de cet État.
Merci, professeur.
Qui s'est traduit par un accaparement arbitraire de l'État et de ses ressources par ceux qui ont l'appareil de l'État entre leurs mains.
Merci, professeur.
Et donc là, il y a véritablement une réflexion en profondeur qu'il faudra mener.
Merci, professeur. Honorable Boussel, je vous donne la parole tout à l'heure, mais notez que le gouvernement Matata a investi à l'Assemblée nationale par les élus du peuple. Cette investiture est intervenue, vous le savez, après les réponses du Premier ministre quant aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la présentation du programme d'action du gouvernement lundi dernier. Cependant, la RDC est très réputée dans la conception des textes, à l'instar du programme d'action du gouvernement Matata, qui, en tout état de cause, reste très classique et porteur de plusieurs espoirs. Seulement, pourquoi la RDC, malgré l'arsenal de ses textes, de ses programmes, mieux conçus, n'arrive pas à se développer comme les autres pays du monde? Une problématique que souhaite le député national Henri Thomas Lokondo, tout en proposant certaines pistes de solutions. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Notre pays a démontré à la face du monde depuis des décennies la capacité de ses enfants dans la conception des programmes et des plans, qui malheureusement ont souvent échoué à cause principalement du déficit criant d'applicabilité, du manque de contrôle efficace et surtout du manque de sanctions exemplaires. Je crois que au-delà de ce programme qui est une vision générale, il faut surtout appliquer la sanction et contrôler efficacement ce qu'on a reconnu. Et il faut, à la fin, comme la Cour de compte et l'inspection générale des finances vont être redynamisées, il faut auditer l'État. On ne peut pas naviguer comme ça à vue. Il faut auditer l'État, savoir ce que nous avons, ce qui existe au niveau central, au niveau provincial, au niveau de district, au niveau de territoire, pour que nous puissions partir sur de nouvelles bases.
Il faut auditer l'État, honorable Jean-Lucien Boussa, c'est la proposition de l'honorable Henri Thomas Lokondo. Le professeur Félicien Kabamba venait de parler de redéfinir le rôle de l'État pour que ce programme soit une réalité.
Il faut aller au-delà. selon le choix que nous faisons, le choix de l'État que nous faisons, est-ce qu'il faut un État privilège, c'est-à-dire qui consacre la quête de privilèges pour ceux qui en détiennent le commande, ou il faut un État service? Lorsqu'on a déjà, on s'est mis d'accord sur le choix qu'on fait, et qu'on a fait le choix de l'État service, ça se décline logiquement en termes de qualité des institutions. Il est démontré par toutes les études que la qualité des institutions influe sur la croissance et le développement. Donc, d'abord, une vision, un État véritablement, un État service, des institutions pour permettre à l'État d'être, aux institutions plutôt, aux animateurs, sûr, d'être au service véritablement des citoyens. Et à partir de ce moment-là, tout le reste est facile. Contrôle par les audits, etc. Mais je voulais revenir sur un aspect intéressant lorsque j'ai suivi mes co-débatteurs. Il faut arrêter de banaliser le programme, considérant que c'est un document qu'on a mené au Parlement, il peut être parfait ou il peut comporter. Non. Sur base de quoi une majorité existe? Sur base de quoi un candidat prétend avoir, comment dirais-je, gagné les élections? Parce qu'il présente un programme qui découle d'une vision de la gestion de l'État. Mais lorsqu'on est élu, on est censé déjà avoir une bosse de programme. Et quand le Premier ministre arrive de son gouvernement, ils prennent ce programme sur base duquel on a battu campagne pour pouvoir probablement l'ajuster et l'amener au Parlement. Ça veut dire qu'il est déjà suivi d'avance. Donc il faut. Les programmes que nous a présentés le Premier ministre, et je dois vous l'avouer, manquent de crédibilité. Pourquoi il faut un programme? Parce qu'il peut éviter justement de naviguer à vue. Les Congolais doivent savoir aujourd'hui que, par exemple, là-dessus, ça a été dit, que nous avons un taux de croissance de 7%. En 2020, en 2016, il faut avoir un taux de croissance de 15%. Les Congolais doivent savoir que si nous avons atteint ce taux de croissance, le niveau de salaire de fonctionnaire devrait évoluer de tel niveau à tel autre niveau. Les Congolais doivent savoir que dans les 5 ans, nous nous fixons comme objectif de développer des infrastructures à tel niveau, de tel niveau à tel autre. Ça doit être dit de manière précise dans le programme. Là-dessus, je voudrais juste terminer. Le programme que nous a présenté le Premier ministre manque de crédibilité et c'est très dangereux.
Alors, honorable, il nous reste moins de 8 minutes pour terminer cette émission, mais concrètement, êtes-vous pessimiste, optimiste? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce programme soit finalement, puisse être réalisé? Parce que c'est ce qui intéresse tous les Congolais.
Non, le programme a déjà été approuvé par la majorité. De ce côté-là, on revient parce qu'il est débat. Maintenant,
quelles sont les propositions pour que ça marche?
Les propositions sont claires. Un, que tous ceux qui viennent, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, président de la République, parce qu'il partage la responsabilité gouvernementale avec le Premier ministre, le gouvernement, l'Assemblée nationale, en particulier la majorité à l'Assemblée nationale, parce que c'est elle qui décide en définitive, tous doivent être dans une vision des transformations de la République démocratique du Congo. Si tout le monde est d'accord que l'État service est de retour, si tout le monde est d'accord que nous travaillons tous pour améliorer les conditions de vie des citoyens, tout le monde sera d'accord que la gouvernance de la République soit améliorée. Ce que certains pays appellent les capitales intangibles, c'est quoi? La qualité des institutions, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte donc que les fonctions de chaque institution soient faites et exécutées de telle sorte que tout ce qu'on pouvait le bien-être des citoyens. Or, c'est souvent pas le cas.
Honorable Christophe Mutundula, vous avez également suivi les propositions de l'honorable Henri Thomas Lokondo pour que ce programme soit appliqué, ainsi que ce que vient d'ajouter l'honorable Jean-Lucien Boussa. Quelle est votre réponse à ce sujet?
Bien, je voudrais très rapidement quand même préciser un certain nombre de choses. Hein. Chez nous, on insiste beaucoup sur le social. Laissez-moi dire, amis compatriotes, que le social n'est pas une génération spontanée. Tant que nous allons donner l'impression de nous disputer la misère, le social ne va pas s'améliorer. Le social, c'est le produit d'un travail systématique sur le produit de la maîtrise selon des paramètres, comme on le fait actuellement, l'inflation, la croissance qui augmente, les infrastructures, et c'est au bout du processus, quand je dis au bout, je ne vois pas des siècles, c'est quelque part, lorsqu'on aura suffisamment avancé, que le social s'améliore. Écoutez, il y a des années qu'on ne payait pas plus ou moins régulièrement le salaire. Les gens faisaient 4, 5, 6 mois, voire une année. Actuellement, ce petit ne se fait plus ou moins régulièrement. L'enseignement privé, on peut prendre des exemples parce que nous sommes à la fin de l'émission, mais je voulais vraiment dire aux compatriotes qu'il n'y a pas du social qui soit génération, le produit des générations spontanées.
Mais c'est le gouvernement qui doit mettre tout ça en musique.
Oui, oui, et c'est pour ça qu'il y a eu des éléments. J'ai dit à Jean-Lucien Boussard que personne ne peut banaliser le programme du gouvernement. Parce que ça, c'est banaliser le destin, l'avenir du pays. Mais ce que je voulais dire, c'est que présentement, le gouvernement a donné des grandes orientations, une visibilité de l'avenir, les paramètres sont là, et certainement, ce n'est pas à 70 ou 75 pas, ce que c'est encore, on peut tout mettre. Non, mais la vision est là, on voit, on lit vers où on avance, et encore une fois, j'insiste, attendons le budget dans les jours à venir. On va discuter. On a parlé.
Honorable Tondo.
Il y a un élément important. Éviter l'État. Oui, pour le moment, je crois, et mon groupe parlementaire soutient ça, nous avons procédé à l'évaluation. Eux, le gouvernement et nous avons fait une sorte de diarrhée législative qui risque d'être chronique. Au moment de tout ce qu'on a voté, on a créé le FONER. Où en sommes-nous? On a fait la réforme du portefeuille. Où en sommes-nous? Vous comprenez?
Merci.
Et j'ai dit à Jean-Lucien que le président de la République ne partage pas sa responsabilité gouvernementale avec le gouvernement, le premier ministre. Non, techniquement.
Merci, honorable.
Ce n'est pas ça.
Permettez que je vous arrête, il reste au moins de 3 minutes pour terminer. Professeur Bob Kabamba, il faut auditer l'État, d'après le sénateur Bokondo, pour éviter de naviguer à vue, l'honorable Boussa ajoute qu'il faut une vision de la transformation l'État-service. En guise de conclusion, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour que ce programme, finalement, soit appliqué et concrétisé?
Pour que le programme soit appliqué, je crois que d'abord, il faut une volonté ferme, de ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains. Mais il y a aussi d'autres conditions qui tiennent, c'est que il faut que le Premier ministre ait réellement la réalité du pouvoir exécutif. S'il n'a pas l'essentiel du pouvoir, il sera très difficile pour lui de pouvoir mettre tout ce qu'il ambitionne de faire en œuvre. Mais il y a aussi des conditions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. Tant que le pays va sombrer dans l'insécurité, eh bien, beaucoup de dépenses seront engagées dans le secteur militaire, ce qui pourra réduire évidemment, les ambitions du Premier ministre. Il y a là toute une série d'éléments dont il faut tenir compte et qui pourront conditionner la réussite de ce programme. Mais il y a aussi la nécessité, parce que nous sommes dans un pays dans lequel la corruption est très généralisée, il faut également essayer, sur ce plan-là, de renforcer l'appareil répressif de l'État, surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption. On nous a parlé, on a lancé un slogan ici, et ce slogan n'avait jamais été mis en pratique, c'est celui de tolérance zéro. Moi, je voudrais qu'il y ait concrètement quelque chose d'assez bien qui est... Est-ce que je m'entends?
On vous entend, professeur. Merci bien. Permettez que je vous arrête à ce niveau-là. Honorable Boussa, en guise de conclusion.
Non, très rapidement. La politique gouvernementale est définie par les premiers ministres en collaboration avec les présidents de la République. Et d'ailleurs, par ça, c'est domaine de collaboration. La défense, les affaires étrangères, je voulais simplement préciser. Et le premier ministre exécute la vision du président de la République. Il l'a répété à plusieurs égards. Donc, on ne doute pas là-dessus. Ça commence qui concerne les sociales. Ce que nous disons, c'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des expériences, des années de guerre, des années de troubles pour en faire des modèles au moment où les choses se sont stabilisées? Les sociales. Un exemple simple
pour terminer.
Les cartons de Cheshire rendus matin, c'est 11 dollars. Ils coûtent à Kinshasa 75 à 80 dollars. Ça, on peut régler rapidement, les fois de testament.
Merci, honorable.
C'est 8 dollars, on le vend à 15 dollars. Ça, on peut régler très rapidement.
Merci.
C'est les sociales.
Honorable Lutondo, là, juste un mot pour clôturer.
Ben, le programme pour réussir, il faut la volonté politique, il faut le travail de tous, nous devons poursuivre les réformes, et à ce titre-là, je crois que il faut repenser la réforme de la justice et la réforme de la territoriale et de la fonction publique. C'est devenu essentiel.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. À demain, même chaîne, même heure. Au revoir. Thank you.